21h à Bamako, 22h à Nouakchott, Lomé et Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus, la crise couve au Nigeria après les accrochages de la semaine dernière. Les défis des croissances africaines sont multiples.
Il y a deux grandes contraintes majeures qui font que la croissance ne descend pas au niveau des populations. La première, c'est les grandes inégalités. Et le deuxième élément, c'est la faible transformation structurelle de nos économies.
Reportage de Kay Lawson à suivre. Page culture avec l'écrivain mauritanien Mbareng Berouk. Et enfin, focus sur les rallyes du cœur au Mali en fin d'émission. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Le secrétaire américain à la défense Chuck Hagel a démissionné de son poste après 2 années dans le gouvernement fédéral. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche, le président Barack Obama a fait savoir aujourd'hui que Hagel lui a confié le mois dernier qu'il était temps pour lui de mettre un terme à son service. Le New York Times, citant de hauts responsables du gouvernement, a rapporté aussi que la démission est intervenue sous pression sur des controverses en matière de politique étrangère, y compris la guerre en cours contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Le Parlement du Niger a un nouveau président. Il s'agit de Amadou Salifou. Il a été élu ce lundi en remplacement d'Ama Amadou en fuite après sa mise en cause dans un trafic international de bébés. En République démocratique du Congo, au moins 100 personnes ont été tuées à Beni, dans le Nord Kivu, au cours de la semaine écoulée. L'information a été révélée ce lundi par des parlementaires de la région Jacques Aristide.
La tuerie a été attribuée à des hommes appartenant au groupe rebelle ougandais des Forces démocratiques alliées ou ADF Nalu. L'attaque a été perpétrée jeudi à l'arme blanche et ciblée notamment des civils. Radio Okapi, la radio appuyée par l'ONU en RDC, rapporte que ce massacre vient s'ajouter à d'autres carnages commis ces derniers mois dans le Nord Kivu, dans l'est du pays. Pour le vice-gouverneur de la province, Feller Lutaïtiaroua, le nombre de nouvelles victimes porte le bilan à plus de 200 personnes massacrées depuis octobre dans la même région par les ADF, une milice islamiste dirigée par Jamil Mukulu, un chrétien converti à l'islam. Le vice-gouverneur Lutaï Tcherwa a appelé les habitants à la vigilance. Quant à Albert Balié-Essima, un député de la majorité, il a déclaré que les forces armées congolaises, les FRDC, ne voulaient pas que les gens aillent plus loin dans la brousse où d'autres corps pourraient encore être découverts. Pour l'heure, le gouvernement congolais n'a pas fait de commentaires sur cette nouvelle tragédie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les grandes puissances internationales et l'Iran se sont données jusqu'au 30 juin 2015 pour sceller un accord complet sur le programme nucléaire iranien. Une semaine de tractations à Vienne, en Autriche, n'a pas abouti ce lundi à l'accord espéré, mais le secrétaire d'État américain John Kerry soutient que les parties ont fait des progrès sur certains des points les plus difficiles. Les diplomates, dit John Kerry, sont plus près d'un accord qui rendra le monde entier plus sécurisé. Selon l'AFP, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité qu'il n'y ait pas eu d'accord entre le groupe 5+1 et le gouvernement iranien. Au moins 10 personnes ont été tuées et 31 blessées aujourd'hui dans une attaque à la voiture piégée visant un quartier majoritairement chiite de Bagdad. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des responsables médicaux et la sécurité. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais le groupe extrémiste sunnite État islamique a revendiqué plusieurs attaques à la voiture piégée ces dernières semaines dans la capitale irakienne. En Afghanistan, un kamikaze a tué au moins 50 personnes à Paktika, dans l'est du pays, lors d'un match de volley-ball. L'explosion a fait 80 blessés qui sont actuellement hospitalisés à Kaboul. L'attaque de dimanche a coïncidé avec l'adoption par les législateurs afghans des accords de sécurité conclus avec l'OTAN et les États-Unis sur la présence des troupes internationales en Afghanistan après 2014. Et puis enfin, les sanctions occidentales et la baisse des prix du pétrole coûtent plus de 100 milliards de dollars l'an à la Russie. Une déclaration faite aujourd'hui par Anton Sulianov, le ministre russe des Finances, lors d'un forum économique à Moscou. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé plusieurs séries de sanctions à la Russie à cause de son rôle dans le conflit ukrainien. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission avec le Nigeria, des accrochages entre parlementaires et policiers. Jeudi, devant l'Assemblée nationale du Nigeria, continue de défrayer la chronique à travers le pays. Les membres de la société civile ainsi que les électeurs de l'État méridional du Delta du Niger, un bastion du président Goodluck Jonathan, s'inquiètent des conséquences possibles pour la présidentielle de l'année prochaine. Un reportage réalisé par Chris Stein et Hilary Ougourou du service anglophone de la Voix de l'Amérique est présenté ici par Lionel Gaïma.
C'était un spectacle affligeant, choquant que les Nigérians ont suivi sur le petit écran ce jour-là à l'Assemblée nationale. Nombre d'observateurs considèrent ces événements comme symptomatiques de la montée des tensions au Nigeria à moins de 3 mois de la présidentielle de février. Ibrahim Ibrahim, directeur du Centre pour la démocratie et le développement d'Abuja, craint que les forces de sécurité se mêlent de politique en tentant d'empêcher le président de la Chambre, Aminu Tambuwal, de mettre pied dans le bâtiment. Tambuwal s'est attiré le courroux des membres du PDP au pouvoir pour avoir récemment fait défection et adhéré à l'APC, le principal parti d'opposition. Quand les forces de sécurité ne sont pas neutres et apolitiques dans leurs actions, estime Ibrahim Ibrahim, cela crée alors de sérieux doutes sur la consolidation de la démocratie. Donc ce sont des événements très inquiétants et nous sommes tous très bouleversés de voir une telle chose se passer. Beaucoup d'États du Delta du Niger, zone pétrolière du Sud, sont des bastions du PDP. En fait, le président Jonathan, qui est un ancien gouverneur de l'État de Bayelsa, avait obtenu plus de 98% du suffrage en 2011 dans la région. Le parti au pouvoir a demandé vendredi une enquête sur l'incident de jeudi devant le Parlement, mais un de ses activistes dans le Delta, Onakpoma Ovi-Joseph, pense que cela pourrait amener les électeurs à croire que les forces de sécurité sont hors de contrôle, ce qui ne serait pas une bonne chose pour leur parti. Eh bien, je suis contre ce que le gouvernement a fait et cela va lui être très préjudiciable en valant à l'opposition des votes basés sur la sympathie. Le parti d'opposition, APC, est en réalité le résultat d'une fusion l'an dernier entre 4 des principales formations d'opposition. Le PDP est uni derrière M. Jonathan pour un second mandat, mais l'APC n'a toujours pas choisi son candidat. Gabriel Osaken avait voté la dernière fois pour Goodluck Jonathan, en partie parce qu'il est de la région du Delta. Maintenant, il n'est plus sûr. Des événements comme ceux de jeudi, devant le Parlement, ternissent, dit-il, l'image du président. En tant que citoyen de ce pays, ce sera un défi pour moi en 2015. Un problème parce qu'il doit faire attention à tout cela. Tout le monde dit maintenant et chaque jour que le président n'est pas compétent. Les parlementaires devaient, lors de la session avortée de jeudi, se prononcer formellement sur la récente requête de M. Jonathan pour proroger l'état d'urgence dans 3 États du Nord où sévit Boko Haram. Pourtant, la veille, ces extrémistes avaient tué 45 personnes à Zayakoura, un village de l'état de Borno, un des 3 États en question.
Dossier économie à présent. Les perspectives de croissance pour l'Afrique en 2015 sont bonnes, mais l'économie du continent est entre autres menacée par la fièvre à virus Ebola. Les économistes estiment que le taux de croissance pourrait connaître une baisse par rapport aux prévisions et pour cause d'épidémie Ebola. Les cours des matières premières pourront aussi être déterminants dans le maintien du cap de croissance, ainsi que pour la qualité de la gouvernance macroéconomique. Reportage de notre correspondant à Lomé, Kai Lawson.
L'Afrique est la seconde zone dans le monde avec un taux de croissance élevé derrière l'Asie. Selon les prévisions des économistes, l'Afrique connaîtra une croissance autour de 5,5% en 2015. Werner Keller, représentant résident du Fonds monétaire international FMI au Togo.
Le contexte international devient certes plus difficile, mais l'Afrique a des grands atouts pour avoir une croissance en 2015 qui est à peu près au même niveau de 2014, c'est-à-dire autour de 5,3-5,75% en 2015. Ce que nous proposons, c'est maintenir les bonnes politiques, s'ouvrir au monde, investir dans le social. C'est très important que les fruits de cette croissance puissent vraiment être sentis par la majorité de la population.
Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La croissance économique en Afrique a un caractère virtuel car elle n'agit pas directement sur la pauvreté. Abdoulaye Mar Dien, directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD.
Il y a deux grandes contraintes majeures qui font que la croissance ne descend pas au niveau des populations. La première, c'est les grandes inégalités. Et le deuxième élément, c'est la faible transformation structurelle de nos économies, qui font que beaucoup de la croissance, c'est dans des secteurs très limités, notamment les secteurs des matières premières et des industries extractives. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire une transformation structurelle de nos économies pour qu'il y ait beaucoup plus de valeur ajoutée interne dans nos économies et assurer que nos secteurs soient intégrés. Par exemple, ne pas avoir des îlots comme des industries extractives qui produisent des ressources et puis les exportent, mais s'assurer qu'il y a une cohérence entre les industries extractives, l'agriculture, les services.
L'un des défis pour les économies africaines est la transformation structurelle, nous dit Djossou Semondi, ministre togolais de la planification.
Les défis concernant la qualité de l'investissement, les transformations structurelles pour que la croissance économique puisse donner une amélioration constante et progressive des conditions de vie des populations, pour que les économies africaines puissent s'insérer harmonieusement dans l'économie mondiale. Parce que si la plupart des pays pétroliers ont tiré la croissance en Afrique, il faut que cette croissance-là donne lieu à une transformation structurelle, que nous puissions avoir des investissements de qualité.
Même si les perspectives sont bonnes, des incertitudes demeurent. Au nombre de celles-ci, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Professeur Kakonu Bukpo, ministre togolais de la prospective.
La crise Ebola, avec son impact qui n'est pas encore totalement déterminé. Les impacts directs peuvent être faibles, mais nous pensons qu'il peut y avoir des impacts indirects liés notamment à la psychose, donc à quelque part un refus d'éventuels investisseurs de venir. Le tourisme pourrait aussi en souffrir. Ceci étant dit, n'oublions pas les facteurs structurels. La croissance est tirée par les matières premières et les cours des matières premières sont volatiles, ce qui peut rendre la croissance aussi volatile. Deuxième chose, cette croissance est faiblement pourvoyeuse en emploi.
Kay Lawson, nommé pour la Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 100.9 FM à Sokodé au Togo sur la radio Tchaoudjo. Découverte de l'écrivain mauritanien Barek Berouk, aujourd'hui dans notre page culture. Cet ancien journaliste de presse écrite est devenu l'un des écrivains les plus populaires de Mauritanie suite à la publication de son livre « Et le ciel a oublié de pleuvoir », publié en 2006 aux éditions du musée Dapper. Ce passionné de l'histoire du Sahara nous parle de son dernier ouvrage « Le griot de l'émir », un livre qui évoque le conflit malien.
Mon livre se situe à l'époque précoloniale, quand les tribus du Sahara nomadisaient librement, quand ils avaient leur propre mode de pouvoir, quand il y avait des émirs, des chefs, il y avait aussi surtout des griots. C'est des gens qui portaient les armes, qui portaient la parole et qui portent aussi les idéaux de la tribu. J'ai une responsabilité. D'abord, ma première responsabilité, je pense, est de présenter au monde ma culture, de présenter au monde le milieu où je vis, ce que j'appelle moi ma civilisation, celle du Sahara. Je pense que c'est une responsabilité première, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre Sahara, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe partout dans le Sahara. Et dire que le Sahara, c'est pas seulement un désert, c'est pas seulement la Qaïda ou la Khmer ou ainsi de suite. Sahara, c'est des cultures, c'est des modes de penser, c'est des modes d'agir. C'est une civilisation, le Sahara. Et je pense que le nord du Mali a subi une double agression. L'agression des islamistes et aussi l'agression d'aujourd'hui, l'agression des forces extérieures à ce nord Mali. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix si on ne tient pas compte des sentiments de la population, de son désir d'autonomie. Et je ne pense pas à l'indépendance. Je pense que c'est une bêtise de parler d'indépendance à propos du nord Mali. Mais je pense qu'il y a des cultures qui ne concernent pas seulement le Mali, qui devraient être reconnues, avoir leur place dans les États d'aujourd'hui.
L'écrivain mauritanien Barek Berouk. Nous terminons l'émission par le Mali. La fondation Nos Vies en Partage, qui remplace les Rallyes du Cœur, a donné 100 millions de francs CFA à une dizaine d'associations et de centres d'accueil des orphelins et des enfants abandonnés. La fondation Nos Vies en Partage réunit une trentaine de sociétés et entreprises maliennes autour de la société minière Randgold Ressources. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous fait découvrir cette fondation.
Cela fait quelques années que les responsables de Randgold Ressources ont initié les rallyes du cœur pour venir en aide aux enfants dans les centres d'accueil et orphelinats. Cette année, avec l'aide d'autres partenaires, cette initiative a été transformée en fondation Nos Vies en Partage. Marc Bristow, responsable de Randgold Ressources.
Challenge our partners that benefit from...
L'objectif recherché par Nos Vies en Partage est de mettre à contribution nos différents partenaires avec qui nous travaillons à pouvoir prendre en charge tous ceux-là qui sont laissés de côté ou laissé pour compte par rapport à tout ce qui s'amène dans la société.
Donations totaling some 17 million.
L'orphelinat Azmali a bénéficié des gestes du rallye du cœur. Cette année, elle est parmi les profitables de la fondation Nos Vies en Partage, d'où la joie de sa promotrice, Mali Sango dite Bibi.
De 2011 à 2012, de prendre en charge non seulement les 191 enfants de notre organisation, mais cet enfant qui est venu en 2005 et qui ne voit pas et qui n'entend pas et qui ne parle pas. Le parcours a été très difficile, mais nous avons pu ne pas chavirer le bateau parce qu'il y avait les ressources de chacun de vous qui avait contribué avec Nos Vies en Partage.
Les villages SOS du Mali, la Poupounière et rive droite de Bamako, les victimes des inondations, les déplacés et autres personnes vulnérables ont eu droit à des gestes de cette fondation. Professeur Marouf Keïta, des villages SOS du Mali.
Nous n'avons qu'un mot, c'est encore merci, parce que la plupart des associations vivent de dons, et malheureusement souvent de dons venant de l'extérieur. Et s'il y a des partenaires locaux qui commencent à intervenir, on ne peut que saluer. La conjoncture mondiale étant telle qu'elle se présente, petit à petit, nous aurons besoin de pointer sur nos propres forces. Alors autant commencer dès maintenant.
Le ministère des Mines du Mali ne compte plus rester en marge des initiatives de ces genres, à défaut d'en organiser pour multiplier les sourires sur les visages des enfants orphelins. Djibroula Togola, chef de cabinet du ministère des Mines.
Chose que nous, on devrait faire, mais ils nous en donnent l'initiative et merci beaucoup. Je crois qu'on aura tiré la leçon et nous allons non seulement l'appuyer dans cette initiative, mais essayer aussi d'initier nos propres initiatives identiques et d'évoluer pour vraiment une meilleure gestion de la gouvernance au Mali. Merci, monsieur le CEO de Randgold Resources.
Après ce premier geste de la fondation Nos Vies en Partage, les organisateurs se préparent pour la rentrée scolaire afin d'apporter du sourire et plus de sourire aux enfants orphelins. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Joselle Morissin, à la technique Joe Gill, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Saline Niolo et son Bikutsi. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Gay,
bapam gi tel benette chamanda ñen bapam gi tel benette sap ñen bapam gi tel benette chamanda ñen bapam gi tel benette sap ñen nangani mbokani filipitulo ñen nangani mbokani netendeo ñen nangani mbokani netesao ñen nangani mbokani nette jamo ge 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 ge